Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bosuma.
Le M23 doit quitter avant tout Bunagana au Nord Kivu. C'est seulement après que les négociations se poursuivront entre la RDC et le Rwanda. Cette position du gouvernement congolais a été exprimée hier par son porte-parole, Patrick Muyaya. C'était au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Deuxième jour ce mardi des épreuves de l'examen d'État édition 2022. Le lancement officiel a eu lieu hier à partir de Kolwezi dans la province du Lualaba et ce par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a conseillé aux candidats à l'ex-État de travailler dans la sérénité et à bannir les antivaleurs. Et puis, notre invitée de ce matin est une sage-femme œuvrant à Butembo. La sœur Birissal et Brigitte nous parle de ses 48 ans d'expérience. Elle dit avoir vécu des heureux et malheureux événements qui accompagnent l'accouchement, des événements qui parfois hantent durant toute la vie. Madame, Messieurs, bonjour. La position du gouvernement congolais ne changera pas dans les négociations pour rétablir la sécurité et la paix dans l'est de la RDC. Il faut que le M23 quitte d'abord Bunagana avant de poursuivre les dites négociations. C'est le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement congolais qui le dit. Patrick Muyaya s'est ainsi exprimé hier au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec son collègue du commerce extérieur à Kinshasa, le ministre Patrick Muyaya, dans ses propos recueillis par Paul Matendo Mayamba.
Lorsque nous sommes partis à Luanda avec le président de la République, je pense 48 heures plus tôt, le président Museveni a contacté les présidents Tshisekedi pour lui demander d'envoyer une délégation pour échanger avec lui sur la situation évidemment à l'Est et pour que ces derniers proposent ces pistes de solutions. Le président Museveni a donné son opinion sur le sujet qui n'est pas la nôtre. Nous, le principe, c'est ce qui a été dit à Nairobi, il faut que le M23 et tous ces suppôts retournent aux positions initiales. Et donc pour nous, quel que soit ce qui va nous être dit, notre position, elle ne change pas. Il faut quitter Bunagana parce que nous avons convenu d'un cessez-le-feu à Luanda. Et donc pour le moment, nous nous en tenons à cela. Il a donné ses avis qui ne sont pas les nôtres, suivant son prisme, mais pour nous, nous sommes fermes sur ces sujets-là.
Le vrai problème du développement de la RDC est l'absence de l'État comme superstructure sur laquelle doit être bâti tout projet de société. Propos de Jean-Marc Kabound, il s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa. Parmi les points évoqués, ce député élu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a annoncé la formation de son parti politique dénommé Alliance pour le changement. Le compte-rendu de Paul Matendo Mayamba.
Parlant de son parti, Jean-Marc Kabound estime que l'homme congolais reste la priorité des priorités.
Nous estimons dans l'Alliance pour le changement que le vrai problème dans ce pays, c'est d'abord l'homme congolais, mais ensuite l'absence de l'État.
Il regrette par ailleurs que le régime en place ait repris le système de l'impunité.
Le peuple qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée de la reprise avec force de l'impunité dans notre pays.
Jean-Marc Kabound a également parlé de la déstabilisation des institutions provinciales.
Le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables.
Au sujet de sa collaboration avec le chef de l'État, il dit avoir déconseillé à Félix Tshisekedi le plan de se maintenir au pouvoir par le glissement.
Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, puis organiser des élections où la tricherie s'était en train de se préparer parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI. J'ai dénoncé cela.
La taxe RAM a été également évoquée. Selon lui, cette taxe est une escroquerie de la population.
Comme vous venez de le suivre, Jean-Marc Kabound a déclaré, je le cite, « Le régime Tshisekedi a lamentablement échoué ». Fin de citation. L'ancien président intérimaire de l'UDPS a tenu ses propos hier lors de la conférence de presse évoquée précédemment. Entre-temps, dans une interview accordée la semaine dernière au magazine Jeune Afrique, l'ancien président Joseph Kabila a affirmé que le fait de ne pas respecter le délai prévu par la Constitution en reportant les élections ou d'exclure certains candidats à la présidentielle ou à organiser les élections avec la la CENI, la Cour constitutionnelle et la loi électorale actuelle sera une déclaration de guerre. Par ailleurs, à l'issue du congrès du parti politique SID à Kisangani, Martin Fayulu a exigé que les élections de 2023 soient organisées dans le délai contraignant de la Constitution et sur toute l'étendue de la République. Ces déclarations ont été débattues hier dans le magazine Dialogue entre Congolais de Radio Kapi, présenté par Kéline Kouté. Réagissant au nom de son parti, l'UDPS, le professeur Jean-Claude Chilumbayi, cadre du parti présidentiel, a estimé que cela prouve que l'état de droit qui respecte notamment la liberté d'expression est en vigueur sous le régime Tshisekedi. Cependant, selon lui, ceux qui se permettent de donner des leçons aujourd'hui ne sont pas des modèles. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Guy Matetsongo.
J'ai entendu d'abord le FCC qui pour la première fois a aussi des leçons à nous donner sur ce qu'il appelle le respect du calendrier, comme s'il a appris dans ce pays qu'il y a quelqu'un qui avait l'intention de faire ce que lui avait toujours fait parce que sous son règne, la Constitution n'a pas existé, il n'y a rien qui a fonctionné. Nous nous mettrons notre bilan sur table, ça sera un bilan chiffré en effet. Vous aurez assisté pour la première fois dans ce pays-là à des résultats du genre que des routes de très longues distances ont été construites en un mandat, pas sur 18 ans. Vous assisterez à des réalisations du genre 350 000 enseignants ont été mécanisés alors qu'ils sont restés sans salaire pendant 30 ans dans ce pays. Vous assisterez à des bilans du genre que les enfants exactement étudient gratuitement. J'ai même eu énormément de soucis. C'est Jean-Marc Kaboun qui parle des stagiaires au sommet de l'État, alors qu'il y a été, lui, sans qu'il n'ait géré une salle de classe dans sa vie. Hein. Et puis, il parle des caisses de l'État qui saignent, mais qui saignent avec quoi?
Répondant particulièrement aux critiques de Jean-Marc Kaboun, Jean-Claude Chilumbayi a affirmé que Jean-Marc Kaboun a eu l'occasion de construire une école dans la ville de Kinshasa à 350 000 dollars après exactement 2 ans passés à l'Assemblée nationale comme député. Il s'est notamment acquis des dizaines de villas qui peuvent se chiffrer à plusieurs millions de dollars et ça, c'est connu de tous, conclut-il. Sud Kivu, entre-temps, Denis Mukwege exhorte le bureau du procureur général de la Cour pénale internationale à poursuivre ses enquêtes en RDC, plus particulièrement dans les zones affectées par les conflits. Le prix Nobel de la paix 2018 l'a dit le dimanche 17 juillet à l'occasion de la Journée internationale de la justice pénale internationale, le condensé de son message avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Le docteur Mukwege se dit pleinement conscient que l'État congolais a la responsabilité première de poursuivre et juger les auteurs de crimes graves commis sur son territoire. Cependant, malgré tous les efforts de justice militaire, Denis Mukwege note une difficulté de la RDC à relever le défi de l'impunité. Voilà pourquoi il en appelle à une action de la justice pénale internationale, un processus complémentaire à la stratégie holistique de justice transitionnelle qui sera bientôt mise en place en RDC. Pour ce faire, le prix Nobel congolais sollicite une implication de toute la communauté internationale. Il faut mettre fin au double standard à l'humanisme à géométrie variable et donc reconnaître aux Congolais leur droit à la vérité, à la justice, à des réparations, seul gage du non-renouvellement des atrocités, renchérit le docteur Denis Mukwege. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Kapi.
Examen d'État édition 2021-2022. Le coup d'envoi de ces épreuves programmées pour 4 jours sur toute l'étendue du territoire national a été donné hier à Kolwezi dans le Lualaba par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a par la même occasion invité les élèves finalistes à travailler dans la sérénité et à bannir les antivaleurs car d'après lui, n'aura le diplôme que celui qui l'aura mérité. Jean Gandou, reportage.
Cette cérémonie a eu pour cadre le complexe scolaire Ewabora. Pour ces épreuves de 4 jours, 2653 centres sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national pour près de 920 000 candidats. La province du Lualaba, d'où le coup d'envoi a été donné, aligne 13 408 finalistes, dont 5 902 filles pour les cycles longs et 165 candidats, dont 85 filles pour les cycles courts répartis dans 35 centres. Une occasion pour la gouverneure AI du Lualaba, Fifi Masuka, de saluer l'engagement de tous les enseignants qui, contre vents Serge Omaré ont tenu bon malgré le contexte difficile caractérisé notamment par la pandémie de COVID-19. Le ministre Tony Mwaba, qui a aussi encouragé les élèves finalistes, a rappelé aux uns et aux autres la particularité de cette édition. D'après lui, ne peut avoir son diplôme que celui qui aura obtenu au moins 50% de points dans le cours d'option. Il a aussi demandé aux élèves de bannir les antivaleurs. N'aura le diplôme que celui qui le mérite, a-t-il martelé. Notons que pour la province du Lualaba, le gouvernement provincial a payé les frais de participation pour tous les élèves finalistes de la province. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans le même cadre, lutte contre les antivaleurs dans la province éducationnelle Maïndombe 3, tout inspecteur qui sera surpris dans la pratique de corruption pour encourager la fraude ou la tricherie dans les centres d'examen d'État sera sévèrement puni. Cette mise en garde est de l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Maïndombe 3, Cosmos Yema, s'est ainsi exprimé à Koutou. À la veille de la session ordinaire de l'examen d'État 2022, il a tenu à décourager aussi les parents qui tenteraient de corrompre les inspecteurs dans le même sens. Aux candidats finalistes, ce cadre de l'éducation leur demande de se présenter au centre d'examen sans complexe. Cosmos Yema est au micro de Irène Boma.
Avant, c'était une pratique presque courante. Les gens s'organisaient pour préparer l'arrivée des inspecteurs au centre, leur donner des enveloppes pour que la fraude soit organisée à partir même des centres. Mais nous avons déjà pris des dispositions. D'abord, à partir de l'enveloppe même qu'on a allouée aux inspecteurs pour leur séjour, on a fait un effort pour que chaque inspecteur soit à l'aise, qu'il ait un montant d'argent pour pouvoir lui permettre de rester tous les 8 jours de mission là où il va sans problème. Et avec les parents, nous avons eu beaucoup de réunions pour sensibiliser les parents pour que cela ne soit organise pas. Si nous surprenons de telles pratiques, nous allons sévir avec la dernière énergie. Nous avons martelé surtout sur le fait que les parents s'organisent à donner des enveloppes. Ces enveloppes ne se feront pas. Parce que tenter de préserver ou présenter les enfants à un échec, ce sont des antivaleurs. Nous luttons contre ces antivaleurs. Parce qu'on peut donner l'argent. L'enfant réussit, il a son diplôme, mais il a la tête vide. Qu'est-ce qu'il fera dans sa vie?
Par ailleurs, la province du Nord Kivu aligne plus de 63 700 finalistes du secondaire aux épreuves de l'examen d'État 2022. Le lancement a été supervisé hier matin par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, pour la province éducationnelle Nord Kivu 1, qui a aligné environ 22 500 candidats. Les autorités scolaires déplorent de nombreux défis sécuritaires, entre autres la guerre du M23. Dans le territoire de Rutshuru, au moins 400 élèves finalistes du secondaire ont pu accéder à leur centre de passation d'examen d'État, là, grâce à une intervention des casques bleus déployés dans la zone, selon les sources de la MONUSCO, dans le cadre des efforts de protection des civils, une escorte a été fournie par les casques bleus du secteur central en faveur de ces élèves de Kitagoma. C'est vers la frontière avec l'Ouganda, dans le groupement de Busanza. L'escorte a accompagné ces élèves jusqu'à leur centre d'examen d'État à l'Institut supérieur pédagogique de Rutshuru. Signalons que le groupement de Busanza est parmi les 4 groupements du territoire de Rutshuru les plus affectés par les affrontements entre les FARDC et le M23. 2 jours sans moto-taxi dans la ville de Butembo. Les conducteurs protestent contre la hausse vertigineuse du prix du carburant. À travers ce mouvement de grève, ils disent également interpeller les autorités à rétablir la paix dans la région, la moto étant l'unique moyen de transport en commun dans la ville. Cette situation a pénalisé des nombreux candidats finalistes qui ont eu du mal à se rendre au centre d'examen d'État hier lundi, comme le décrit ici Grace Amzati dans ce reportage.
Tout déplacement est devenu un vrai calvaire ce lundi au centre-ville de Butembo. La marche à pied est restée l'unique moyen pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les transports en commun. Pas de moto-taxi dans tous les coins de la ville. Certains élèves finalistes qui se rendent dans les centres de passation d'examen d'État en ont payé le prix. Témoignage de quelques-uns.
C'est la pluie qui a commencé le matin. J'avais quand même l'argent, mais malheureusement, je ne voyais pas de moto.
Les difficultés qui ont été rencontrées le matin, manquement de moto, il a plu, j'ai manqué la moto. Demain, j'ai vu marcher encore à pied.
Vraiment, on manque comment arriver au centre. Donc, c'était difficile le matin. On arrive là où il y a des parkings, des motards, il n'y a rien. Vraiment, le matin d'aujourd'hui, c'était chaud. J'ai marché sur la pluie comme ça.
Ezekiel Paluku Makata est fonctionnaire de l'État. Il habite dans un quartier périphérique de la ville. Il dit avoir effectué 10 heures de marche depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail. Une distance qui lui prend moins de 30 minutes à moto.
J'ai été obligé vraiment de venir à pied. Il y a eu vraiment des retards au lieu de service. Je suis sorti chez moi à 6 heures et arrivé au lieu de service à 8 heures.
Toutes ces personnes interpellent les autorités à trouver solution à cette situation. Butembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Actualité internationale. booster les négociations sur le changement climatique. Tel est l'enjeu de la 12e conférence internationale sur le climat qui s'est ouverte lundi à Berlin en Allemagne. À 100 jours de la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh, les autorités égyptiennes tirent la sonnette d'alarme. Dans la capitale allemande, le président égyptien a mis en avant les effets du changement climatique pour les pays africains, alors que les 100 milliards de dollars promis en 2020 aux pays pauvres s'est font toujours attendre. Le chef de l'armée israélienne Aviv Kochavi et le premier chef d'état-major du royaume chérifien a effectué une visite officielle au Maroc. Arrivé hier lundi à Rabat, il va multiplier les entretiens avec des hauts responsables militaires durant 3 jours.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons la sœur Birissa Le Moulembesania Brigitte. Elle exerce le métier de sage-femme depuis 1974. D'après elle, ce métier représente toute sa vie. Avec 48 ans d'expérience, elle dit avoir vécu tous les heureux ou malheureux événements qui accompagnent l'accouchement, des événements qui parfois hantent durant toute la vie. La sœur Birissa Le Brigitte est à Boutembo. Elle nous parle de son expérience dans cet entretien avec Sadiq Yaboubakar.
Sœur Birissa Le Brigitte, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes sage-femme depuis 1974. Qu'est-ce que la pratique de la sage-femme représente pour votre vie?
Bon, la pratique de sage-femme, c'est un métier que j'aime beaucoup. Quand nous accueillons comme ça les bébés, hein, nous accueillons les mamans qui viennent accoucher, on est très contents.
Et quand vous voyez un enfant dont vous avez facilité la naissance, vous voyez un enfant devenir une personne adulte, vous vous dites quoi?
On est très content. Par exemple, il y a un prêtre qui, après l'ordination, m'avait dit, voilà, ma maman m'avait dit que c'est toi qui avais dirigé mon accouchement. J'étais très contente. Ça me donne encore envie de continuer, ça me donne encore plus de force. Je me dis, ah, donc, je suis quand même en train de faire quelque chose dans la société, quoi.
Alors, les moments que vous traversez lors de l'accouchement, ce sont des moments très délicats. Il vous arrive d'assister à des cas de décès des enfants ou de leur maman. Comment est-ce que vous parvenez à surmonter des événements pareils?
Alors, c'est dur vraiment. Mais quand on sait que on a essayé de faire ce qu'on a pu, même si ça n'a pas réussi, bon, on se console à dire, ben, on a quand même essayé de faire ce qu'on a pu faire. Mais, bien sûr, il peut y avoir aussi des moments des échecs. On se reproche, on se dit, ah, vraiment, peut-être si j'avais essayé de poser ce geste, peut-être on pouvait sauver la vie de ce bébé. Ça nous fait quand même quelque chose. Hein? Si on voit qu'il y a un geste qui a été mal posé, vraiment, on demande pardon. Et je crois que le Seigneur est là aussi pour nous aider, mais sinon il y a beaucoup de stress.
Alors, par rapport au remords d'avoir mal agi ou de n'avoir pas posé l'acte qu'il fallait, certainement il existe des moments comme ça dans beaucoup de métiers, mais chez vous c'est un peu délicat parce qu'il s'agit de la vie ou de la mort. Quand on se reproche comme ça, que doit faire la personne pour éviter de reconnaître de pareils moments dans l'avenir?
Dans l'avenir, on essaie de faire encore plus attention. On essaie de retenir cela et on se dit, non, en tout cas prochainement, il ne faut plus que ça m'arrive.
Alors, aujourd'hui, nous savons que les médecins, les infirmiers, y compris sage-femme que vous êtes, vos conditions de prise en charge ne sont pas très très bien réunies. Il y a beaucoup de difficultés, mais vous êtes appelé quand même à faire convenablement votre travail. Est-ce que c'est facile?
Ce n'est pas très facile, mais le fait que c'est un métier qu'on a aimé, vraiment, on le fait quand même malgré soi. Mais si quelqu'un y entre,
sans en avoir une vocation ou une passion.
Oui, en tout cas, il peut se décourager très facilement. Mais quand c'est quelque chose qu'on a choisi et qu'on a aimé.
En dépit des conditions.
Oui, en dépit des conditions, vraiment, ça dépasse, on le fait vraiment de tout son cœur.
Sœur Brigitte, quel conseil vous allez donner à tous les jeunes qui embrassent le métier de sage-femme par rapport à toutes les difficultés qu'il y a, à toute la complexité qu'il y a autour de ces métiers? Quel conseil vous allez leur donner?
Ce que je peux donner comme conseil, c'est de dire vraiment, quand on a choisi ce métier, il faut vraiment en être conséquent. Et malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, qu'on puisse être persévérant.
Et au gouvernement, quelles recommandations vous pouvez...
Je vais demander aussi au gouvernement d'avoir un regard particulier à ces personnels qui s'occupent de ce travail noble, qui n'est pas très facile, parce que, comme on a toujours dit, le personnel soignant sait quand il vient au travail, mais il ne sait pas quand il va rentrer. Donc il faut que le gouvernement aussi voit comment pouvoir les encourager pour qu'ils puissent travailler vraiment avec bon cœur. Parce que aussi, comme on a toujours dit que vendre crée n'a pas d'oreille, il arrive des moments où vraiment les gens souffrent réellement. On doit le dire, si on vient au travail et on n'a pas trouvé quelque chose à mettre sous la dent, c'est pas facile. Donc, il faut que le gouvernement aussi essaie de voir comment encourager le personnel.
Sœur Birissa et Brigitte, merci.
Je vous en prie.
Notre invitée est sage-femme depuis 48 ans. Elle répondait aux questions de Sadiq Aboubakar depuis Boutembo. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, mis en onde de Mimi Kindou. Merci de nous avoir suivis.